d'une autoroutière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus. Cube Radio. Cube Radio. Rouler dans les coulisses des élections québécoises. Antoine.
Excellent lundi électoral à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, on essaie de voir ce qui se produirait si deux partis d'opposition se retrouvaient ce soir avec une égalité de sièges. Ensuite, le prof Taillon fait une prédiction un peu facile. Les nouveaux élus seront en théorie tenus dans quelques jours de prêter serment au roi Charles III, qui aurait pu être éliminé ce printemps, n'eût été de l'intervention du Parti libéral en général et de Marc Tanguay en particulier. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Rémi Nadeau.
Rémi Nadeau.
Tout a été mauvais. Ça a été un spectacle désolant. C'était triste de voir ça.
Antoine Robitaille.
On sait bien, vous voulez faire du nationalisme. Mm-hmm. Mais non, on veut justement contrebalancer cette délocalisation-là politique.
La rencontre.
Un jour, on fera notre débat.
Oui, bien sûr.
Métal sur métal.
C'est le moment de vérité.
La rencontre Nadeau Robitaille.
Mais bonjour, Rémi Nadeau.
Bonjour, Antoine.
Bienvenue à Là-haut sur la colline. On est de retour sur la colline. Rémi, toi, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal, quel genre de soirée électorale aurons-nous? Est-ce que ce serait une soirée sans démission?
Oui, je voulais te parler de ça parce que je pense que oui. Je pense que, contrairement à plusieurs de nos soirées électorales d'un passé récent, je pense pas que ce soir, il y aura démission sur le champ d'un chef, même si certains sont vraiment en moins bonne posture. Mais d'abord, parlons du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon avait la commande de remonter la pente pour le Parti québécois, alors que beaucoup d'observateurs disaient qu'on risquait d'assister ni plus ni moins à la mort du parti. On se disait qu'il risque d'y avoir que Pascal Bérubé qui va remporter sa circonscription. Et à ce moment-là, donc, comment le Parti québécois pourrait survivre. Et tu sais, il y avait des scénarios un peu catastrophes dans lesquels on pouvait imaginer, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon démissionner le soir même de l'élection. Mais là, les choses ont changé. Il a fait remonter le Parti québécois de 6 points depuis le début de la campagne. Et il peut vraiment se targuer là, que c'est en raison de ses efforts, de sa bonne campagne. Les observateurs ont jugé qu'il avait bien fait. Donc, et en plus, ben, il y a une certaine chance, là, c'est que la candidate de Québec solidaire, dans Camille Lorrain, s'est désisté, donc il a vraiment de meilleures chances aussi de l'emporter dans son comté. Donc moi, je pense qu'il y a, à mon avis, il n'y a pas de scénario dans lequel ce soir, Paul Saint-Pierre Plamondon tire sa révérence. Il faudra voir, par contre, évidemment, combien le PQ peut conserver de sièges. Dans le cas de Dominique Anglade, pour elle, ça va être très difficile, mais parce que c'est clair qu'il y aura des pertes de sièges. Je pense que tu es d'accord avec moi pour le PLQ ce soir.
Oui, c'est certain.
On s'attend à des pertes dans Laval. On s'attend. Moi, je pense qu'ils vont perdre dans Anjou, probablement dans Maurice Richard, fort probablement dans Maurice Richard, peut-être dans Verdun. Même chez les libéraux à l'interne, tu sais, on me parle de Laporte, Lapinière, des circonscriptions où il peut y avoir des pertes. Bon, alors est-ce que Mme Anglade, si elle l'emporte dans Saint-Henri-Sainte-Anne, dans son propre comté, ce sera suffisant pour qu'elle se maintienne en poste, même si le parti lui-même essuie peut-être le 6-7 pertes de comté? Ça sera pas facile, en tout cas, dans les circonstances, dans les prochaines semaines, prochains mois. Mais elle a tellement répété dans les dernières semaines qu'elle allait demeurer en poste, là, peu importe. Elle l'a tellement dit de façon affirmative. Je pense que vraiment, c'est son intention, mais...
Il y a d'autres chefs de parti qui ont dit qu'ils resteraient très longtemps puis qu'ils ne sont pas restés. Je pense à Mélanie Joly, par exemple, qui avait perdu à la mairie de Montréal, qui avait dit « Je vais être candidate aux prochaines élections. » Ah oui? OK.
Oui.
Alors, c'est pas arrivé.
C'est sûr que pour elle, en tout cas, moi, je ne m'attends pas donc à une démission ce soir sur le champ. Je pense qu'elle veut rester, mais ça sera difficile pour elle. Mais donc, si on pense...
Parce qu'il risque d'avoir une défaite historique pour les libéraux. Là.
Oui, ben, je dis déjà...
Peut-être pas en termes de sièges, parce que le plancher comme on l'a vu avec Dave Noël à La Haut sur la colline, à La Haut sur l'autobus il y a quelques semaines, Dave Noël, l'historien, dit « Le plancher, c'est 8 sièges en 1948. 8 sur 100. » Donc, oui, ça fait un peu plus sur 125, mais quand même, ça serait bien...
Ça difficile. Fait très longtemps. Oui, ouais, c'est ça.
Et, mais et puis, en termes de pourcentage, bien là, c'est quasiment certain qu'on va défoncer le plancher au Parti libéral, parce que le pourcentage le plus bas, c'est Philippe Couillard qui l'a eu aux dernières élections. C'était quoi, 24%?
Bien, c'est ça. J'allais dire déjà, c'était une défaite là, historique en termes d'appui à la dernière fois. Et là, écoute, dans le dernier sondage léger, là, tout juste là, ben, en fait, qui est paru dimanche, ils sont à 6% chez les francophones. C'est hallucinant, là. 6, tu sais, à chaque fois.
Ils ont perdu des fois, points le... avec la campagne.
Exact. Alors.
Aïe, aïe, aïe.
Bon, allez, moi, dans les circonstances, comme je te dis, je vois mal comment Dominique Andelade pourrait se maintenir bien longtemps. Mais en tout cas, le signal qu'elle envoie, c'est qu'elle veut rester en poste là, indépendamment là, du résultat. Dans le passé, là, juste pour se remettre un peu à l'esprit, chez les péquistes, il y a eu souvent des démissions le soir même parce que on se rappelle de Pauline Marois en 2014,
oui,
qui avait perdu dans Charlevoix elle-même. Et c'était, écoute, c'était une dure défaite là, après un très, très, très court règne.
Et accompagné sur la scène avec tous les prétendants, tu te souviens?
Oui.
C'était malaisant. T'avais Drainville à côté, Pierre-Carl Belladeau. Eh mon Dieu.
Oui.
Et Jean-François Lisée. Et Jean-François Lisée. Les trois étaient autour comme des vautours. Ouais.
Et Jean-François Lisée, ben lui, ça a été le suivant. C'est-à-dire que en 2018, il a démissionné sur le champ lui aussi parce que ben, il avait perdu dans Rosemont. C'était quand même un peu une surprise. Vincent Marissal de Québec solidaire qui l'avait défait. Et Lisée donc avait annoncé aussi sa démission sur le champ. Moi, j'ai un souvenir très franc aussi, Antoine, de 2008, décembre 2008,
oui,
quand Mario Dumont aussi avait annoncé sa démission comme chef de l'ADQ après une cuisante défaite. Il s'était retrouvé donc à l'opposition officielle. Il était passé de 41 députés, si je me rappelle bien, à 7 seulement.
Ouch!
Et là, ça, c'était évidemment une déconfiture. Il y avait un silence là mortuaire dans la salle de la Rivière-du-Loup ce soir-là.
Les motels universels.
Exact. Et Mario Dumont avait...
T'étais là comme reporter, hein?
Oui, exactement. Et puis, c'est le genre de souvenir assez saisissant de vie politique, là, une soirée comme celle-là.
Et moi, je me souviens de Jean Charest en 2012. Il n'avait pas démissionné sur à la soirée même. Il avait attendu.
Non, c'est ça, exactement. Ben, et Philippe Couillard aussi. Donc, on dirait que chez les libéraux, c'est un peu différent parce que Jean Charest avait perdu dans son comté de Sherbrooke, mais avait attendu le lendemain, en fait. Il avait tenu une dernière réunion avec le Conseil des ministres sortant et il avait annoncé sa démission. Et dans le cas de Philippe Couillard, ça avait pris quelques jours, là, je ne me rappelle plus si c'est 2 ou 3. Lui, il avait gagné dans Robertval, mais après la dure défaite aux mains de la CAQ, il avait choisi de se retirer complètement de la vie politique. Là, il en avait fait l'annonce à Québec quelques jours après. Alors, c'est ça, on verra la suite des choses. Dans le cas d'Éric Duhaime, en tout cas, lui, c'est sûr, il l'a dit aussi, même si, par exemple, il ne l'emporte pas dans Chauveau, reste chef du Parti conservateur, il l'a dit même qu'il s'engageait en politique pour 10 ans.
Alors, ah oui?
Oui, mais bon, on verra.
Quant à François Legault, ben, sans doute qu'il sera premier ministre ce soir. C'est très possible, en tout cas, c'est ce que les sondages nous disent. On ne veut pas présumer du choix des électeurs, mais on sait quand même qu'il y a une forte tendance de son côté. Donc, aucune possibilité de démission de sa part. Quoi qu'il va-tu finir son mandat? C'est ça?
C'est ça. La question maintenant dans le cas de M. Legault, bon, la campagne a été très difficile. On avait l'impression que ça ne lui tentait pas beaucoup, qu'il a trouvé ça dur de se faire critiquer de toutes parts par 4 autres chefs, par les médias qui suivaient. Bon, il a 65 ans. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il fera comme choix pour la suite des choses? Il nous a dit un peu comme en boutade, moi, j'exclus pas un troisième mandat si j'ai la santé et l'appui des gens. Mais ça n'a pas, en tout cas, disons que la campagne actuelle n'a pas donné l'impression qu'il aurait vraiment le goût de se retaper ça dans 4 ans.
Non.
Et puis, l'autre chose, c'est que...
Même si hier, on a essayé, là, on lui a posé des questions là-dessus, puis il a dit « Ah non, j'ai eu du plaisir, mais c'est drôle, j'avais du mal à le croire. »
Oui, c'est ça. On avait l'impression que le sourire qu'il affichait dans ses derniers points de presse et semblait un peu sourire forcé. Mais chose certaine, c'est que son mandat sera difficile parce que, contrairement au premier mandat où il est arrivé avec un plan de match clairement établi, on savait qu'il allait faire adopter une loi sur la laïcité, on savait qu'il voulait faire changer les règles pour que le commissaire de l'UPAC soit nommé aux deux tiers de l'Assemblée nationale, on savait qu'il voulait faire des maisons des aînés, des maternelles 4 ans. Bon, il y avait vraiment un plan. Là, on a l'impression que le continuum est un peu vague. Il y a eu aucune nouvelle idée, on dirait, présentée par la CAQ dans le cadre de la campagne électorale. On se demande un peu, donc, qu'est-ce qui est vraiment motivant? Il n'y a pas de projet de société, on dirait. Bon, alors, dans ces circonstances-là...
Tu sais quel est le premier projet qui va être déposé, projet de loi?
Oui, c'est pour les tarifs.
Colin!
T'imagines? C'est surtout pour faire...
Le projet de société, c'est pour faire en sorte que les tarifs augmentent juste à l'inflation.
Oui, puis c'est surtout comme aussi pour colmater une gaffe, dans le fond, pour éviter que les tarifs d'Hydro-Québec augmentent à 5-6% selon l'inflation, là, étant donné qu'eux-mêmes, ils avaient modifié ce que Hydro-Québec pouvait faire. Donc, c'est comme remettre le couvercle sur la marmite. Bon, et puis l'autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens ambitieux à l'intérieur du parti. Bernard Drainville revient en politique, c'est pas pour rien. On a souvent parlé des aspirations de Sonia Lebel, de Geneviève Guilbeault, de Simon-Jolin Barrette, peut-être. Bon, alors je pense aussi que graduellement, il y a des gens qui vont vouloir avoir une certaine visibilité, vont vouloir commencer à poser des jalons, là, en vue d'une future course. Donc, ça sera difficile, je pense, pour M. Legault de maintenir la cohésion de ce groupe-là est un peu en équilibre là, sur le nationalisme, mais on sait qu'il y a des gens qui sont plus souverainistes à l'intérieur puis d'autres qui sont vraiment plus fédéralistes, là, catégoriques. Bref, je pense que ça va être un deuxième mandat difficile probablement pour M. Legault et la CAQ.
Oui, et on aura l'occasion, Rémi, de vérifier si ta prédiction s'actualise parce qu'on continuera d'analyser la politique dans les prochaines années. Merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle ce soir, puis on se reparle demain, surtout à la haut sur la colline.
Oui, j'ai hâte de voir les résultats de tout ça.
Oh oui, salut.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pour savoir et comprendre, les élections québécoises. Antoine Robitaille.
C'est lundi, jour de chronique consti.
On s'érotise une question constitutionnelle à la fois.
La traduction constitutionnelle.
La question constitutionnelle.
Bonjour Patrick Taillon.
Bonjour Antoine.
Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Ces jours de scrutin et il pourrait bien y avoir une égalité de sièges dans l'opposition. Et ce soir, c'est surtout ça qu'on va regarder, n'est-ce pas, Patrick?
Oui. Qu'est-ce qu'on fait si jamais je sais pas moi, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois ou le Parti conservateur arrivaient à égalité, par exemple, 10 sièges chacun. Deux de ces partis remportent 10 sièges. Qui peut alors former la loyale opposition de sa majesté la reine?
C'est-à-dire
qui
peut le roi, former le roi.
Oui, qui peut former l'opposition officielle, pour utiliser le langage plus courant.
Oui.
Alors là-dessus, d'abord, il faut se demander qui tranche la question. Ce n'est pas M. Legault, nouveau premier réélu, ce n'est pas le gouvernement qui va choisir l'opposition qui ferait son affaire, même si, comme député, membre de l'Assemblée, ils peuvent peut-être influencer un petit peu, mais c'est vraiment une décision qui appartient à l'Assemblée. C'est l'Assemblée qui... C'est de la régie interne, c'est sa poutine organisationnelle.
Oui.
Et c'est un peu, en quelque sorte un domaine réservé, ce qu'on appelle, là, c'est technique, mais les privilèges et immunités parlementaires. Donc, ni les juges, ni le judiciaire, ni l'exécutif, le gouvernement, va se mêler de la question. Ça va revenir, au fond, à la présidence de l'Assemblée,
oui,
au secrétaire général, à son personnel, de prendre une décision s'il y a lieu.
Donc, ça peut prendre du temps, parce que là, l'Assemblée est sans présidence actuellement. Il va falloir en nommer un nouveau. François Paradis est parti.
Oui, et à l'Assemblée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si les groupes, là, si les leaders parlementaires de chaque groupe s'entendent, tout est possible et on peut tout régler. Mais s'il y a des accords et le désaccord persiste, bien à la fin, ça va être tranché par la présidence de l'Assemblée qui va devoir rendre une décision fondée un peu sur une logique précédente puis un mélange de plus. Donc, le premier indice qui viendrait en tête pour trancher la question, ce serait de dire, bon, ben, ils ont le même nombre de sièges, les partis d'opposition. Allons voir qui a eu le plus de votes. C'est ce qui serait le plus logique.
Ah oui.
C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la dernière élection.
Oui.
Le Parti québécois avait 10 sièges. Québec solidaire en avait 10 également. Et Québec solidaire s'est rangé à l'argument qu'il avait eu, je crois que Québec solidaire avait eu 16,1% des votes et le Parti québécois un peu plus de 17%. Et donc, au début, c'est loin, mais au début de la dernière législature, le Parti québécois formait le deuxième groupe d'opposition. Mais oui, tout ça peut changer en cours de route. On l'a vu la dernière fois. Lorsque le Parti québécois a perdu des sièges, ben, il est devenu le troisième groupe d'opposition. Donc, des groupes peuvent se former, se défaire. Moi, j'ai le souvenir du Bloc québécois, qui était un parti inexistant à Ottawa à l'élection précédente, mais qui avait réussi à former un groupe parlementaire reconnu à la suite de plusieurs démissions du caucus fédéral et même de certaines démissions du caucus libéral fédéral et conservateur fédéral.
Pardon. Mais Patrick, pour ce qui est du Parti québécois de 2018, il avait perdu Catherine Fournier, par exemple, qui était devenue indépendante, mais en même temps... Il pouvait toujours revendiquer 17,06% des voix, non?
Oui.
Ou peut-être qu'en perdant Catherine Fournier, il perdait un morceau de ce 17%, c'est ça?
Non, mais la règle du jeu parlementaire, c'est le nombre de sièges. Donc, le nombre de sièges l'emporte toujours. Du moment où un groupe perd des députés, ce qui avait été le cas là, avec du moment où la députée de Marie-Victorin a décidé de siéger de manière indépendante, ben, le Parti québécois avait un nombre de députés, un nombre de sièges inférieur à Québec solidaire.
Voilà.
C'est pour ça qu'ils ont inversé les positions. Donc, ça peut changer en cours de route. Et dans le cas qui nous occupe, là, on spécule sur le futur, mais ce soir, ça va être une des choses intéressantes. Supposons qu'il y ait égalité.
Ouais.
Mais ensuite, il y a un des chefs qui est élu dans le parti qui a le même nombre de sièges, l'autre ne l'est pas.
Ouais.
Peut-être que ce chef-là va chercher à se faire élire. Est-ce que ça va être un siège de plus?
Ouais.
Imaginons qu'un chef de parti est élu, mais veut quitter la vie politique. Donc, dans les mois qui suivent, on peut imaginer que tant au niveau du leadership de ce parti qu'en ce qui concerne les députés, membres de ce groupe, il peut y avoir des départs.
Mm-hmm.
Donc, la décision qui va être prise, si jamais il y avait égalité, c'est une décision qui peut changer en fonction là, de l'état des forces, si je peux dire, qui est appelé un petit peu à évoluer de façon marginale, mais surtout si on est dans un cas d'égalité, ben ça peut jouer.
Bien. Sans présumer des résultats de demain, parlons d'un autre cas de figure. Qu'arrive-t-il si une majorité remporte tous les sièges? C'est déjà arrivé, je me souviens, au Nouveau-Brunswick, à la fin des années 80, en plein débat autour de l'accord du Lac-Meach. Franck McKenna avait gagné tous les sièges. À ce temps-là, est-ce qu'il y a une opposition officielle?
Mais t'en prends une. C'est le propre du jeu parlementaire qui est un débat, une confrontation des idées. Donc, l'exemple qu'on mentionne ici est vraiment intéressant. Zéro député au Nouveau-Brunswick. Donc, ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait quand même négocié un statut pour l'opposition. On lui avait réservé un budget, du personnel, et on permettait au chef de l'opposition de poser ses questions du haut de la tribune du public au sein de l'Assemblée. Bon, ça avait un côté un petit peu loufoque. Là,
bricolé, oui.
Bricolé, mais on avait essayé quelque chose et je pense que ce serait inévitable. Et là-dessus, encore une fois, il y a toujours une distinction entre ce que le règlement dit. Le règlement est assez exigeant. Là, si je me souviens bien, ça prend soit 12 députés.
Oui.
Ce soir, là, moi, je prédis qu'ils vont être assez rares, les partis politiques qui vont faire élire 12 députés. Pour le Parti libéral, ça va être difficile. Pour QS, c'est loin d'être acquis. Pour le Parti québécois aussi. Donc, le seuil de 12 députés, peut-être que personne ne va le rencontrer autre que la majorité.
Oui.
Donc, il faut soit avoir 12 députés ou sinon avoir 20 % des votes. 20 % des votes aussi, c'est une marche qui est difficile à atteindre. Là, on a quand même plusieurs partis qui sont proches du 20 % Donc, c'est un ou l'autre. Si on franchit un ou l'autre des deux critères, l'un ou l'autre des deux critères, ça nous donne le droit à la reconnaissance de plein droit. Comme ça, on n'a pas besoin de le négocier. Mais si tous les partis sont en dessous du seuil prévu par le règlement...
On va changer le règlement? Je gagerais qu'on va changer le règlement.
On pourrait le dire de façon cynique qu'on va changer le règlement en fonction des circonstances, mais je dirais plutôt qu'on va négocier à la pièce un statut pour les oppositions. Et combien de fois, par exemple, dans les années où l'Action démocratique n'avait qu'un seul élu avec Mario Dumont, même sous la dernière législature, il y a des partis qui ne rencontraient pas l'exigence du 12 députés et du 20 % parce que c'est un seuil qui est très, très élevé et qu'on a besoin du rôle de l'opposition. Ben, on finit par leur reconnaître, on finit par s'entendre. Et un des gros incitatifs pour arriver à une telle entente, c'est que même si un troisième ou un quatrième parti d'opposition n'a pas un énorme rapport de force au sein d'une Assemblée nationale où le parti majoritaire mène le bal, n'empêche qu'il y a toujours dans le train-train quotidien de l'Assemblée besoin pour un consentement unanime, pour accélérer une procédure.
Toujours.
Toujours. Et donc, la majorité qui voudrait jouer dur avec les oppositions, puis dire, vous n'aurez pas de statut, vous n'aurez pas de personnel, vous n'aurez pas de budget, parce que vous ne rencontrez pas la règle prévue dans le règlement, ça ne pourrait pas durer longtemps, parce que juste avec les consentements unanimes requis, les partis en question pourraient bousiller la vie du gouvernement de manière assez significative. Donc, tôt ou tard, c'est le genre de choses qui s'arrangent. Et tu as raison de dire que quand le règlement ne fait pas, on s'en crée un sur mesure sur ces questions-là. Et il faut penser, faut croire que ça va être la même chose. C'est juste que si jamais il y avait deux partis qui avaient le même nombre de sièges pour les avantages de l'opposition officielle, on peut penser que ça pourrait jouer un peu plus dur parce qu'à la fin, ça a des conséquences concrètes comme le salaire du chef qui est 75 % bonifié s'il est chef de l'opposition officielle et qui bénéficie d'une bonification bien moindre s'il est chef du deuxième groupe d'opposition et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai pour le salaire.
C'est lui qui a la première question. Le chef de l'opposition officielle a la première question à toutes les périodes de questions. C'est fondamental.
Beaucoup plus important que les questions d'argent, de budget et de salaire et d'employés qu'on peut embaucher, le temps à la période des questions, le temps en commission, la place qu'on occupe dans les débats, ça c'est fondamental et c'est pour ça que s'il y avait égalité à la deuxième place, à la place d'opposition officielle, c'est certain que ça jouerait dur au lendemain de l'élection pour avoir ce titre d'opposition officielle.
Il faut absolument que je te raconte une blague qui a circulé dans les officines caquistes, Patrick, c'est qu'on aurait tellement de députés après le 3 octobre qu'on pourrait former un groupe de l'opposition, mais issu de la CAQ. mettons que tu vas chercher 20 députés qui sont contre le troisième lien, mais qui sont pour toutes les autres politiques de la CAQ. Former un groupe. Je ne sais pas si c'est uniquement une blague ou il peut y avoir, c'est une possibilité, mais...
Ben, il ne faut pas que cette opposition caquiste soit artificielle. Hein. Il faut que l'opposition ait pour un gouvernement d'alternance, soit un gouvernement fantôme, un gouvernement en attente.
Ah oui.
Mais je ne souhaite pas que cette blague devienne, évidemment, un avant-goût d'un éventuel éclatement. Au fond, la coalition de Brian Mulroney, à la fin des années 90, elle est large, elle remporte beaucoup de sièges, mais elle finit par créer deux nouveaux partis d'opposition, le Reform Party et le Bloc québécois, qui sont en quelque sorte deux composantes, deux tendances d'une coalition qui vont décider de mener une autre destinée. Donc, j'espère que ce qui n'est qu'une blague pourrait se traduire éventuellement par une crise. T'sais, on n'est pas à l'abri de... Surtout quand on bâtit des coalitions arc-en-ciel, ces coalitions-là, tôt ou tard, elles peuvent éclater.
Vous aurez entendu cette possibilité-là ici, en tout cas dans quelques années, si jamais ça se produit. C'est à là-haut sur la colline que ça a été évoqué. Hey, je veux pas t'empêcher d'aller prendre ton avion. Je sais que tu es actuellement dans un aéroport, mais quand même, prenons le temps quand même d'imaginer que tous les députés qui vont être élus ce soir devront prêter serment avant de siéger. Et serment à qui, Patrick?
Ben, c'est drôle parce qu'on aurait pu adopter en juin dernier un projet de loi pour abolir l'obligation de prêter serment.
Ouais.
Et là, ce projet de loi n'a pas pu être adopté parce que le Parti libéral n'a pas consenti à un débat accéléré. Hein, un peu un exemple de ce dont on parlait tout à l'heure sur le besoin de consentement unanime. Alors, tous les 125 députés, sans exception, devront prêter serment au roi Charles III. Évidemment, on a vu la semaine dernière que certains disent qu'ils n'ont pas l'intention, je pense au chef du Parti québécois, l'intention de ne pas prêter serment au roi Charles III. Il faudra voir si, du côté de l'Assemblée, de son secrétariat général, des greffiers qui reçoivent ce serment-là, est-ce qu'on serait prêt à composer avec des synonymes du mot roi Charles III? Peut-être que la solution, la recherche d'un synonyme pourrait être la voie de compromis ici qui permettrait, disons, de faire ce qu'on fait souvent en droit constitutionnel canadien, faire semblant que les choses ne changent pas tout en les faisant évoluer informellement.
Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique en direct de Charles de Gaulle et bon vol de retour au Dominion, retour temporaire. Et on te reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup.
Merci, Antoine.
Et c'est ainsi que se termine là-haut sur la colline. Et oui, je suis de retour dans mon studio en cette journée de vote. Et à l'heure où l'émission est diffusée, il vous reste 2 heures pour exercer votre droit de vote. C'est important, allez-y. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain pour une analyse complète des résultats.
Cube Radio.